Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Cette courte introduction à l'émission du jour est extraite d'un album paru il y a peu, dont l'auteur est un esprit vif, un artiste multidisciplinaire, toujours à la recherche d'un son, d'une tonalité, d'une humeur sonore inédite. Il est percussionniste, batteur, guitariste, chanteur, compositeur, arrangeur. Il a croisé la route de grands personnages. Lui-même est un virtuose. Souhaitons la bienvenue à Mino Sinelu.
Merci, merci. Je me sens chez moi et vraiment, de l'autre côté de l'Atlantique, je vous écoute et d'être là, je me sens chez moi. Vraiment, merci de l'invitation.
Au-delà du plaisir de converser avec vous, tant votre épopée est riche et passionnante, c'est un nouvel album qui a suscité notre intérêt, intitulé « Sula Madiana », en duo avec le trompettiste norvégien Nils Petter Molvær. Comment vous êtes-vous rencontrés d'ailleurs tous les deux ?
C'était un hasard, mais en fait qui a été semi-calculé par un ami en commun. On était tous les deux dans le même festival à Cappadoce, en Turquie. Et dans ce festival, je faisais un concert solo, lui aussi. Et j'étais invité avec Mercan Dede, qui est un fantastique visionary DJ aussi. Et ils ont encouragé les artistes à voir d'autres artistes. Il restait 10 minutes, 15 minutes dans tel show. Et baladez-vous, baladez-vous. Il y avait, je sais pas, une trentaine d'artistes la même soirée. Et ça a duré une semaine, ce festival hallucinant. Arnaud, mon ami qui est aussi un agent, a dit « Tu connais Nils Petter Molvær ?» J'ai dit « Non, va le voir. » J'ai dit « Ok, si tu peux, je suis d'accord. » Et ça concordait. Donc j'arrive, il était dans une petite église creusée à même la roche, qui est la particularité de cette région là-bas. Et il démarre. Je suis resté bien sûr jusqu'à la fin. Ça m'a beaucoup plu ce voyage. Et il a ouvert l'œil, il m'a vu et je suis allé vers lui. Il m'a dit « Je sais qui tu es. » Je dis, moi, maintenant, je sais qui tu es. Faisons des choses ensemble. Ça a été le départ.
Quand j'écoute le son de Nils Petter Molvær à la trompette, j'entends le timbre d'un Miles Davis des années 50, celui de Kind of Blue ou d'Ascenseur pour l'échafaud. Est-ce que vous partagez cette impression ?
Tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de Mars en lui. Il a son propre discours, il a trouvé sa voix, je dirais, Nils, mais... Il y a de ça, oui, c'est vrai, cette ampleur, cette chaleur aussi dans le son, qui est très rare en fait avec les cuivres.
Puis un son pur.
Oui, même quand il utilise des effets, ça reste, il y a une certaine pureté. J'aime bien quand on oublie aussi l'instrument, ça devient vraiment une voix, c'est très inspirant.
Tout à fait. En tout cas, l'addition de vos deux sensibilités donne un album très original que j'ai eu le plaisir de découvrir lors de votre prestation à Marseille dans le sud de la France le 17 juillet 2019.
C'est vrai.
Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Le monde a bien changé.
Oh là.
Vous qui vivez à New York, comment traversez-vous cette période de bouleversement sanitaire, social, culturel, artistique et musical ?
Alors, pas nécessairement dans l'ordre, mais je suis heureux d'avoir pu venir. C'est non sans encombre. Je ne sens plus mes narines tellement je fais des Covid tests à chaque aéroport, avant, après, aux arrivées. Ça a aussi été une difficulté supplémentaire, puisque lui vivant en Norvège, et on a dû finir l'album séparément, mais on a eu la chance de passer beaucoup de temps à mon studio à New York. Il est venu à Brooklyn et on a fait le gros du travail là-bas. On avait démarré à Oslo et vraiment on a tout refait là-bas dans mon studio et on a juste finalisé des choses à distance. Donc ça, c'était la situation et maintenant on essaye de faire la promotion et de faire des concerts et c'est vrai que En 8 mois, j'ai fait 2 concerts. Et les 2 derniers, c'était juste il y a quelques semaines de ça. Quoi. On était en Slovénie ensemble et on était à Salzbourg.
Et à New York, les clubs sont ouverts ?
New York devient une ghost town, vraiment. Et je me rappelle avoir...
Une ville fantôme pour nos non-anglicistes.
Oui, pardon. Le Blue Note, la dernière fois que j'ai vu, c'était fermé. Il y avait des gens sans domicile fixe qui, littéralement, dormaient contre la porte et les vitrines du Blue Note. C'est extrêmement disturbant de voir ça. Donc la réponse est... Je crois que New York va être changé à jamais. Le monde est changé à jamais, à mon avis.
Sur votre album, Sous la Madiana, vous avez souhaité rendre hommage à quelques personnalités disparues depuis le début de cette terrible année 2020, et notamment notre cher Manu Dibango.
Oui.
Vous l'aviez bien connu ?
Pas mal, pas mal. J'ai toujours en mémoire, quiconque l'a côtoyé de près, c'est son rire. Son rire et cette force de la nature et ce grand cœur. D'une rare intelligence d'ailleurs, il avait cette subtilité, cette rapidité, ce cœur, cette chaleur, et c'est une force de la nature, je dirais. On se serrait dans les bras, c'était un arbre qui vous... c'est l'éléphant qui vous montrait de la tendresse. On se parlait, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était, je crois, il y a 4 ans à peu près, au festival de Luanda, en Ouganda. Et j'arrivais de, je sais pas moi, 23 heures d'avion, de changement, quoi. J'arrive à l'hôtel, un des programmateurs nous dit « Non, Manu, il est sur scène maintenant. » Je dis « Ok, j'ai déposé mon baluchon et j'ai dit « Emmenez-moi directement, je veux le voir, ça fait trop longtemps. » On s'est revus et il était sur scène en fait. Je suis arrivé, j'ai même pas eu le temps de me changer, donc je suis en jean, j'étais vraiment pas sapé pour l'occasion. Et bien sûr, un de ses fils m'a dit « T'es là toi ?» Je lui ai dit « Bien sûr. » Et il a chuchoté dans l'oreille de Manu qui est sorti de scène un moment et il a éclaté de rire encore, on s'est serré dans les bras. Il m'a dit « Toi, je te lâche pas. » On a fait Soul Makossa ensemble sur scène. Et bien sûr, auparavant, il m'avait, dans d'autres occasions, il m'avait expliqué que tu sais, les paroles, c'est un gibberish des enfants. « Mamose, mamosa », ça ne veut rien dire, Mino. Et en pensant à ça... Je me suis vraiment cassé la tête pour trouver ces onomatopées, ces sons, parce que je crois que c'est plus facile d'écrire des vraies paroles. J'ai pensé très fort à lui, à ce qu'il m'avait dit, et c'est pour ça que... Yé mama, oh yé mama. Des gens vont peut-être trouver une signification, mais c'est vraiment en pensant à lui, ça devait être son hommage. Ce sont des sons, des onomatopées, c'est une vibe, c'est une vibe.
Voici votre clin d'œil révérencieux à cette grande figure disparue en mars dernier. Madiana, extrait de l'album du même nom signé Mino Sinelu et Nils Peter Molvær, avec donc cet hommage à Manu Dibango.
Oui.
Il y a d'autres grands noms que vous souhaitez honorer dans cet album, Jimmy Cobb et Tony Allen. Rappelez-nous qui était Jimmy Cobb.
Jimmy Cobb, c'est un des enfants de Mars. Et c'est aussi le batteur de Kind of Blue quand même. Puis Jimmy Cobb, je l'ai rencontré quand je suis retourné aux États-Unis. C'était en 78, je crois, ou en 79. Et je l'ai rencontré quand j'ai bougé dans le New Jersey à Newark. C'était une scène musicale hallucinante. C'est là que j'ai rencontré Mary Lou Williams.
La pianiste.
Oui, et Sarah Vaughan était sans arrêt dans les clubs, d'ailleurs.
La chanteuse.
Tout à fait. Et Walter Booker, le bassiste. Et Jimmy Cobb était la rhythm section de Sarah Vaughan à l'époque. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. temps en temps, on se revoyait dans les festivals. Et on a, la dernière fois qu'on a joué ensemble, d'ailleurs, c'était il doit y avoir 3 ans, puisque Jerry Allen était toujours vivante. Elle nous a invités. C'était un All-Star absolument fabuleux avec Pharoah Sanders, Kenny Barron, il y avait Robin Eubanks, qui est absolument fabuleux. J'oublie tous les saxophonistes. Il y avait donc Jimmy Cobb. Mais c'était un plateau hallucinant. Hein, et avec Jerry Allen, j'ai d'ailleurs fait le paparazzi. J'ai quelques vidéos de la répétition. Et on a joué ensemble. Et c'est la dernière fois qu'on a joué ensemble. Et on a aussi parlé quand ils ont dévoilé la venue de Miles Davis, où il habitait à la 77e. Il était un des orateurs, je ne sais pas comment
dire. Des orateurs, vous pouvez le dire, oui.
Ouais, donc Jimmy Cobb, c'était ça. Et bon, Tony Allen, bien sûr, c'est le beat de l'afrobeat.
On va parler de Tony Allen dans quelques instants, mais j'imagine que votre expérience passée avec Miles Davis vous a permis d'être en contact régulier avec tous ceux qui ont partagé son épopée au fil des décennies. Est-ce que votre statut de percussionniste, de rythmicien, vous rapprochait de Jimmy Cobb? Étiez-vous devenu des complices grâce à cela?
C'est une question judicieusement posée. Comme vous savez, j'ai joué d'ailleurs la batterie longtemps avant de toucher la percussion. Mais ce qui me permet d'être un complice avec des collègues, par exemple, c'est le cas avec aussi, en parlant de batteur ou de musicien, avec Miles Davis, Lenny White, ne savait pas que je jouais la batterie, mais a dit à son épouse une fois, mais pour moi c'est mon favori, c'est le meilleur percussionniste du monde. J'ai dit, bon, ça peut être un peu exagéré. Il me dit, non, il vous adore, il vous adore. Et j'ai dit, dites-lui un secret, c'est que je joue la batterie depuis très longtemps, je sais très bien ne pas être dans les jambes des batteurs, puisque je joue cet instrument aussi. En fait, c'est un secret très facile à expliquer. Et c'est vrai que c'est une complicité qui se trouve assez facilement. Et du fait que nous sommes tous les enfants de Mars ou les petits-enfants de Mars. Comme,
vous êtes les Miles Boys.
Je me souviens d'un coup de fil au milieu de nulle part. Je suis avec Weather Report. Et Mars me trouve dans une chambre d'hôtel en Italie, quelque part. Il fait « Allô », tout ça, avec sa voix. « Qu'est-ce que tu fais? Où tu es ?» Alors je lui dis où je suis, mais il m'avait trouvé, visiblement. Et je parle des années 85, 86, même avant ça, peut-être. Je dis « Je suis en Italie, qu'est-ce que tu fais ?» Je suis avec Weather Report. Il dit « Ah, tu es avec mes enfants. » Et après peut-être 5 minutes de conversation, « Bon, tu reviens alors ?» Et c'est là qu'il m'a appelé pour la tournée de Tourtou. Mais on est, et c'est ce côté, cette famille. Et on se sent tous un peu comme ça quand je revois Herbie, quand je... Wayne, ou tous.
Marcus Miller.
Ouais, c'est vrai. John McLaughlin aussi. On a tous un sourire et une histoire au moins à se raconter. C'est vrai. Non, c'est très judicieux.
Ouais. Quoi qu'il en soit, en 20 secondes, oui, oh, vous rendez hommage, et un hommage percussif détonnant, à votre ami Jimmy Cobb.
Oui.
Bref, mais efficace. C'était Tambu Madiana, oui, dédié au regretté Jimmy Cobb. Mino Sinelu, est-ce que le jeu de Tony Allen à la batterie a été une source d'inspiration pour vous?
Certainement, sans le savoir, puisque j'ai retrouvé des cassettes du père Couty. Donc, visiblement, je l'ai entendu sans même savoir que c'était lui. Peut-être je l'ai vu jouer une fois, Fela a ouvert pour nous. Je veux dire, Miles Davis, je crois que c'est en 80 ou 82. Je ne sais plus où c'était, franchement. C'est peut-être en Europe. Et j'oublierai jamais la sortie de ces femmes maquillées avec ces dates des beautés, peut-être une trentaine qui sortent du bus. Et je ne sais pas, ils étaient 50 sur scène. La première fois, j'ai vu peut-être 4 barytons sax en même temps. Enfin, un truc totalement improbable. Et donc, ils devaient être dans ce concert. Donc, oui, c'est sûr. Sans le savoir, c'était une influence, je suis sûr.
Avant d'inventer l'afrobeat, Tony Allen se passionnait pour le jazz américain.
Tout à fait.
Il était fan de Gene Krupa et d'Art Blakey, deux batteurs légendaires de l'histoire du jazz. Est-ce que vous entendiez cette tonalité de jazz dans le jeu de Tony Allen?
Ah, c'est intéressant. Je n'ai jamais analysé parce que je ne savais pas qui il était, en fait, en écoutant. Mais il y a certains touchés qu'on retrouve dans les batteurs de funk. Le début du funk, c'est pas exécuté avec beaucoup, beaucoup de force. C'est vraiment, ça peut être dans la douceur, très, très funky. On peut faire claquer cette caisse claire comme le fouet de Zorro en stéroïde, mais sans nécessairement lever le bras aussi haut que la Tour Eiffel. Krupa, c'est une influence aussi. Et Art Blakey. Art Blakey, on était à Zurich avec Miles Davis dans les années 80, j'imagine, le début du retour. Et il a regardé le concert, il était backstage, et il me prend, il me soulève, mais comme une poupée, voilà, d'un bras, ce qui était une force incroyable. Il m'a dit, je vais te kidnapper du groupe de Mars, tu joues trop bien. J'aurais adoré, malheureusement, on n'a jamais joué ensemble, mais quel compliment. Mais tout ça pour dire, ces gens-là avaient beaucoup de force, en fait.
Force, ouais.
plus suggéré qu'étalé.
Mino Sinelu, que ce soit sur scène ou sur disque, vous avez toujours maintenu une rigueur, une intégrité, une originalité qui vous a distingué de vos homologues. Vous n'avez jamais répondu aux sirènes du succès facile, des compromissions et du marketing commercial. Est-ce qu'il est difficile de maintenir cette exigence artistique, notamment lorsqu'on vit aux États-Unis, le pays où tout est spectacle, paillettes et superficialité?
Oh, c'est exagéré. Je crois que, on parlait de Miles Davis tout à l'heure, c'est quand même une grande inspiration en ce qui concerne l'intégrité et la rigueur et la liberté et l'honnêteté dans la musique. Donc, c'est vrai, quand on s'est rencontrés, cette rencontre a fait qu'on partage la même passion de la même façon. On a des instruments différents, on peut aller dans le détail, mais c'était clair pour nous deux. Et beaucoup plus pour lui, parce que moi j'avais l'innocence, sans savoir ce qui se passait, ne l'ayant même pas reconnu quand il m'a approché, etc. etc. Donc, non, je ne crois pas que ce soit difficile, c'est une vraie passion, je l'ai toujours, et j'ai toujours cette curiosité. Je me rappelle, il y a 5 ans, quand Kate Bush a fait son retour, j'étais honoré de participer à ce moment historique, je pense. Je n'ai pas réalisé sur le moment que c'était historique, mais après, je me dis, mon Dieu, mais elle n'a pas joué depuis 35 ans, et peut-être qu'elle ne jouera jamais sur scène encore, et la qualité du spectacle, et les musiciens dans le groupe, enfin... Non, il y a des gens qui ont cette passion et qui restent honnêtes avec ça. Maintenant, je me rappelle, j'avais pas mal de critiques parce que j'aimais, dans les années 74, 76, l'épopée des musiques noires n'existait pas à l'époque.
Non,
mais
c'est clair.
Il y a des choses que j'écoutais dans votre générique. Et j'écoutais aussi bien du baroque que du jazz, moderne ou autre. Donc, j'ai juste pas changé. J'essaie d'être la meilleure personne possible, le meilleur artiste possible, et dans cet ordre. Et je pense que c'est assez facile avec la passion, mais... je veux dire, un peu de paillettes, j'aime, avec Earth, Wind and Fire. J'ai adoré le passage trop bref, de jouer avec eux. Ils ont des paillettes, mais ça assure vraiment. Donc,
Alors, je vais vous poser la question d'une autre manière. Est-ce que votre identité multiculturelle, caribéenne, métisse, vous a protégé de l'influence artistique américaine qui aurait pu vous détourner de vos choix musicaux personnels?
Vraiment, j'ai été beaucoup influencé par la musique qui venait des États-Unis, la soul. Avant que je ne parle l'anglais, je ne faisais pas la différence entre la soul et le gospel, par exemple. J'ai eu la chance d'en jouer là-bas. Bon, bah, à cette époque, le gospel, c'est là-bas qu'il fallait l'apprendre et le jouer. Maintenant, ça, c'est partout dans le monde, je crois qu'on peut l'apprendre. J'ai vu des gospels de très grande qualité au Tyrol, partout. Ouais. Le voyage s'imposait là-bas, passer du temps pour apprendre avec tous ces artistes qui m'ont tant influencé, mais j'ai aussi, comme vous l'avez souligné, d'autres influences. Et vivant à Paris, c'était un carrefour de toutes les musiques aussi. Donc on était très privilégiés à Paris d'avoir des musiques des Balkans, beaucoup plus faciles d'accès qu'aux États-Unis. Le jazz manouche, on les voyait. Moi, j'allais chaque dimanche au Puce. J'avais juste assez d'argent pour prendre un cornet de frites et une bière. Et ça durait 4 heures l'après-midi. Je me régalais à écouter... des gens d'un talent extraordinaire. J'étais invité sous la fontaine Saint-Michel. Il y avait les répétitions avec les grands ballets d'Afrique noire. Donc il y avait l'Afrique de l'Ouest très représentée là, où j'habitais plutôt. Il y avait beaucoup de gens de la sub-saharienne. Il y avait des jukebox à l'époque. On mettait une pièce, on pouvait écouter, voir Farid El Atrache, Oum Kalsoum, des gens comme ça. Et donc j'ai baigné dans ça avant de vivre aux États-Unis. Et mon passage en Angleterre m'a aussi offert d'autres influences. Je veux dire, le côté paillettes, c'est, il fallait que ça me parle. Si quelque chose touchait mon âme, même avant que je parle l'anglais, ça me touchait. J'étais très heureux de finalement rencontrer un de mes héros, Stevie Wonder, d'enregistrer avec lui, de jouer avec lui. Bon, je ne sais pas s'il y a des paillettes ou non, mais c'est de la qualité qui est indéniable, quoi.
C'est clair.
Mais j'étais aussi très influencé des grands maîtres comme T. Raoul, T. Emile et les gens de Guadeloupe aussi, les vieilles biguines et tous ces trucs-là ont bercé mon enfance aussi, c'est sûr.
Quand vous avez enregistré l'album Swamp Sally avec le pianiste Kenny Barron en 1995, comment a-t-il accueilli vos idées? Lui qui est un instrumentiste, on va dire, enraciné dans la tradition, le classicisme jazz.
Tout à fait, il m'a fait confiance et c'est vrai que je l'ai un peu piégé. Bon. Et il est venu souvent à la maison, on a eu des repas, on a bu, on a fait quelques albums ensemble. Et c'est lui qui avait l'idée, je crois qu'on a fait une improvisation ensemble dans un de ses albums. Et pourquoi on ne fait pas un album comme ça? J'ai dit ok, allons-y. Donc on a parlé, on a dit comment faire, qu'est-ce qu'on fait, pas d'a priori. C'est un peu la même approche que ce projet avec Niels. Et on va s'enfiler et bon, qu'est-ce qu'on veut vraiment pas, qu'est-ce qu'on veut. Et au fil du temps, ça a commencé, il est arrivé avec des espèces de calypso gentils. J'ai dit non, on va vraiment composer, trouver des sons, on va faire une chose qu'on n'a jamais fait, ni toi ni moi. Et il a joué le jeu, et d'un seul coup, il était au clavier. Mais ce qu'il fallait, c'est que ça reste organique. Ça, c'était la condition sine qua non. Il m'a dit, écoute, faut qu'on aussi, il y a des morceaux, on y va, mais il y a des morceaux où on se lâche complètement dans l'improvisation, etc. J'ai dit, ok. comme j'ai dit ok à ça, je l'ai embarqué, je l'ai fait jouer de la contrebasse, du synthé, et j'ai essayé de le faire chanter, parce qu'il chantait, peu de gens savent, il était chanteur de doo-wop.
Ah, je savais pas
à ça. Ouais, à Philadelphie. Dites bien d'où ça vient l'information, et il va m'appeler enragé, on va y arriver.
Et le résultat de votre dialogue musical, eh bien ça donnait ça. Swam Sally, le duo Kenny Barron, Mino Sinelu en 1995, c'était hier. Beaucoup de batteurs et de percussionnistes regrettent que leur statut de leader ou de chef d'orchestre soit souvent minimisé au profit de l'instrumentiste. Est-ce que vous avez rencontré vous-même des difficultés à trouver votre place en tant que leader, du fait de trop nombreuses sollicitations pour d'autres, finalement ?
C'est difficile parce que notre rôle est de faire briller les autres. Si on est un bon batteur, un bon percussionniste, c'est ce qu'on fait. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des solos, qu'on ne peut pas être compositeur, etc. Je me rappelle Max Roach a été un des pionniers à prouver le contraire. C'est difficile, je crois qu'on a un instrument qui peut aussi expliquer à ceux qui ne comprennent pas la situation et à ce moment-là utiliser peut-être une certaine force pour rappeler à autrui que nous avons le pouvoir de changer les choses. Donc en restant musical, je crois que certaines personnes n'ont pas cette école et n'ont pas cette... C'est vrai, n'entendent pas. Certaines personnes jouent sur ce que la section rythmique fait. Très peu peuvent jouer à l'intérieur comme Mars en était capable d'ailleurs. Donc est-ce une difficulté ? Bon, c'est gérable, je pense, c'est gérable.
Je rappelle tout de même que vous avez partagé la scène ou enregistré avec des gens comme Stevie Wonder, Salif Keita, Dizzy Gillespie, Tracy Chapman, Curtis Mayfield, Miles Davis, Joe Zawinul. Je me souviens notamment d'une prestation à l'UNESCO à Paris avec Yuma Sekela et Marcus Miller dans un hommage à Nelson Mandela pour le Jazz Day 2015. Quel souvenir avez-vous de cet événement très prestigieux ?
Eh bien, c'est la dernière fois que j'ai revu Yuma Sekela, bien sûr. Donc c'est avec grande émotion. Toujours un plaisir, un honneur de partager la scène avec Didi Bridgewater. China Moses était là aussi. Enfin, c'était une brochette hallucinante. Herbie, bien sûr. J'ai un superbe souvenir. En plus, c'était la première fois que je participais à cet événement. C'était à Paris. Et ils ne m'ont jamais rappelé pour cet événement. J'étais prêt à faire ça chaque année. On m'a dit, c'est Mino, le budget n'est pas extraordinaire, mais c'est une journée incroyable. J'ai dit, ok, je le fais. Et j'ai vraiment un souvenir fabuleux.
Vous aviez également brillamment soutenu Femi Kuti sur scène lors de cette journée internationale du jazz. Vous connaissiez bien tous les deux ou est-ce qu'il y a eu une sorte d'improvisation sur scène ?
Première fois, il y a eu une répétition je crois, mais la première fois. Et je crois qu'il était surpris parce que dans ces genres de all-star, surtout si quelqu'un fait quelque chose d'un peu particulier, d'une culture particulière, je ne pense pas qu'il s'attendait à quelqu'un à une connaissance du djembé par exemple. Ou de l'afrobeat non plus. Donc je crois que c'est un peu ce qui a dû le surprendre. Je me souviens croiser son regard et il y a eu une bonne osmose et je crois la réponse à cette énergie, c'est le tambour vient quand même de son continent. Donc je crois qu'il y a eu une bonne réponse, une bonne osmose.
Il y a des images incroyables où on le voit vous regarder et on a l'impression qu'il est en train de se dire « mais qu'est-ce qu'il me fait là ?» Et finalement vous le sortez justement de ses habitudes ou des contours de sa musique. Mais il ne vous regarde pas dérangé, il vous regarde avec admiration.
J'ai un peu le faciès du cousin à Bambi, j'ai une tronche un peu innocente et on ne s'attend pas à ce que je massacre le tambour avec une rage et une force. Non, je suis aussi un tambourinaire de rue aussi, donc on jouait dans les ballets, on était à 10 à 15 à jouer. Donc quand il faut marquer pour les danseurs, c'est une autre école, je l'ai cette école aussi, je pense. J'ai eu un moment, un flashback comme on dit, et je me suis lâché, c'était un bon souvenir.
Est-ce que le fait de participer au Jazz Day, à la journée internationale du jazz, révèle votre engagement citoyen? Est-ce que vous êtes un militant, un activiste?
Oui, je suis. Ça s'entend aussi dans les musiques que j'ai choisi d'exprimer. Donc oui, je pense l'être. Dans mon quartier à Brooklyn, il y avait une école qui était quoi, à 10 pâtés de maison d'où j'habite. Et ils avaient des graviers pour jouer, donc on a fait un show pour changer ça. Et d'ailleurs, c'était à l'époque du duo avec Kenny, j'ai invité Kenny. Et l'année d'après, il y avait un groupe, un trio que je montais. Et donc il y avait Mitch Stein à la guitare et au vocal, et Richard Bonnat à la voix et à la basse. Et on a fait un autre bénéfice, un concert.
Caritatif.
Voilà. Et ils ont eu des ordinateurs. Et donc, oui, je suis un activiste.
En écoutant Process of Breathing, ce qui veut dire le processus de respiration, sur votre album, je me suis demandé si ce titre n'était pas l'écho de votre indignation quand des Noirs américains suffoquent sous les coups des autorités blanches comme ce pauvre George Floyd.
C'est intéressant parce que quand on finissait les mix, j'étais beaucoup en contact avec Niels parce qu'avec le Covid, on a dû finir ça séparément, ce projet. Et j'ai dit, tu sais Niels, écoute, je n'ai pas resté longtemps au téléphone là parce que Black Lives Matter, et, carrément, ils sont sous mes fenêtres presque. Donc je prends des photos du toit, je filme, je descends, et je fais des photos, je suis là, je dis, au bout d'un moment... J'ai passé 4 heures avec eux, quoi. J'étais dans l'information, je riais, je pleurais. Il y a un moment, j'ai parlé à un policeman et on était deux à pleurer en disant, ça va vraiment arriver. Est-ce qu'on va voir ça dans notre vie? In our lifetime, are we going to see that? Je me demandais vraiment, et un moment fort. Donc oui, et c'est formidable, des blancs, des verts, des jaunes, des rouges, des noirs, des marrons, des carpers. Et il y avait des jeunes, des bébés, c'était incroyable, des vélos... inoubliable et Process of Breathing peut être un emblème.
Moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas insidieusement un message derrière Process of Breathing.
Il y a beaucoup de messages insidieux, même dans la vidéo, il y a des choses qui ne sont pas au premier degré, mais on sait ce que c'est. Et c'est inévitable et important, et heureux que vous laissiez souligner.
C'est en tout cas une composition qui inspire au calme, à la sérénité, à la paix intérieure, à laquelle nous aspirons tous. Process of Breathing, à un moment où la planète tous, confrontée à un virus respiratoire, ce titre-là fait du bien. Merci mille fois, Mino Sinelu, d'avoir traversé l'Atlantique pour être avec nous aujourd'hui.
Merci 3000 fois, je vous écoute de l'autre côté, et vraiment, on est avec vous, et merci infiniment de l'invitation.
J'imagine qu'organiser des concerts actuellement est assez difficile, je recommande donc à nos auditeurs d'écouter et de télécharger légalement l'album Sous la Madiana, vous soutiendrez ainsi les artistes qui nous apportent tant de beauté et de réconfort. Félicitations Mino Sinelu, et repassez nous voir dès que vous le pouvez.
Merci.
L'émission du jour était réalisée par Nathalie Laporte, qui avait hâte de vous revoir, Mino, 20 ans après votre première venue dans nos studios pour l'album Quest Journée, c'était hier.
Heureux d'être de retour, vraiment.
Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.